Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en rappelant ou en apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, parfois probable, parfois moins, les petites images qui bougent, si possible, sur les grands écrans de nos nuits noires depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Et ce jour, eh bien, nous allons batifoler dans un thème que le cinéma a arpenté en tous sens, si l'on peut dire, celui des détectives et autres enquêteurs. Le nombre de films policiers doit atteindre sans doute quelques centaines de milliers, j'exagère un peu, bien sûr, et bien évidemment, dans un film policier bien fait, il y a généralement un enquêteur, et généralement à la fin, il découvre le coupable, mais oui, vous l'aviez deviné. Alors, pas de thématique particulière, pas de genre, si ce n'est le souci de la bonne musique, évidemment, dans 24 notes secondes, pour égrener le thème du détective. Et nous allons commencer notre enquête, si l'on veut, par un film tourné en 1978 par John Guillermin, ou Guillermin, comme l'on voudra, qui mettait en vedette un fameux petit détective belge, avec des petits neurones plutôt satisfaits de sa personne et une moustache tout à fait reconnaissable, vous l'aurez évidemment reconnu, il s'agit de l'ineffable Hercule Poirot, inventé par la reine du polar Agatha Christie et qui connut de nombreuses aventures en livre, toutes signées bien sûr Agatha Christie, mais aussi de nombreuses aventures cinématographiques, puisque l'on ne compte plus les adaptations au cinéma des romans de Miss Christie, mais aussi des aventures d'Hercule Poirot qui fut interprété dès 1931 au cinéma. Dit ma petite fille qui ne ment jamais, si je puis dire. 1931, ça devait être peu de temps après l'arrivée d'Hercule Poirot chez les libraires. Le film que nous allons évoquer est bien plus tardif, je l'ai déjà dit, 1978, et c'est un roman plutôt exotique qui fut mis à l'écran, Mort sur le Nil, comme son nom, le titre l'indique. Eh bien, il s'agit d'une enquête d'Hercule en Égypte. Hercule, interprété en l'espèce par Peter Ustinov, le délicieux Peter Ustinov, qui s'amuse à parler anglais en prenant l'accent français, alors que dans la vie, eh bien, Peter Ustinov était un polyglotte absolument éblouissant qui parlait l'anglais et le français sans aucun accent. Comme c'était souvent le cas à cette époque et souvent le cas dans les adaptations de films policiers et surtout d'Agatha Christie, eh bien, autour de Peter Ustinov, on avait réuni une distribution tout à fait éclatante puisqu'on y retrouvait Jane Birkin, Bette Davis, Mia Farrow, George Kennedy, Angela Lansbury, David Niven, Maggie Smith, qu'on voit toujours sur les écrans, et c'est plutôt toujours un plaisir. Alors, je vais être très méchant, le rôle de l'assassin était interprété par Mia Farrow, je suis bien désolé, mais vous pouvez quand même voir le film et vous pouvez écouter la bande originale qui était signée du grand Nino Rota, qu'on a connu plus italien, mais qui ne dédaignait pas de temps à autre de signer les musiques de films de quelques super productions. Alors, embarqué sur ces grands bateaux-là, vous savez, en Égypte, sur le Nil, et puis laissez-vous bercer au fil des felouks avec la musique de Nino Rota dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà, on s'y croirait. On est sur le Nil en croisière et ça va mal finir. Mais bien évidemment, à la fin, Hercule Poirot va réunir l'ensemble des suspects et confondre le coupable, ou plutôt les coupables. Décidément, je vous dis tout. Il y en a deux en l'espèce. Ah ben sinon, c'était un peu difficile de faire autrement. Un film tout à fait agréable, Mort sur le Nil, tourné en 1978. Des paysages évidemment somptueux, les pyramides de Louxor et tout ce que vous voulez. Une histoire très anglaise dans ses manières comme dans sa façon de filmer, on aime ou pas, alors parfois on déteste, on peut aussi détester le thé et aimer Agatha Christie, vous avez devant vous. Enfin bref, on va passer à quelque chose maintenant de tout à fait différent. Je rappelle que nous évoquons quelques détectives de l'écran. Alors le personnage que nous allons évoquer maintenant et le film que nous allons évoquer maintenant, s'il se rattache explicitement au genre du film noir, même s'il fut tourné en 1992, eh bien son personnage principal, très curieusement, est un photographe détective. Un photographe détective qui, en l'espèce, est inspiré d'un personnage réel, le dénommé Arthur Wiggy Fehlig, qui, quelque part dans les années 50, eh bien, s'était fait une spécialité de photographier les scènes de crime, c'est-à-dire qu'il s'était branché sur la radio de la police et qu'il arrivait sur les règlements de compte sanglants qui étaient monnaie courante ou presque à l'époque et qu'il photographiait eh bien, les cadavres ensanglantés. Il avait même, pour accélérer encore le rythme de fourniture aux journaux, puisque son but était de gagner sa vie, en tout cas le dit la légende, il avait même dans le coffre de sa voiture un labo photographique portable pour pouvoir développer, et oui je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas, etc., pour pouvoir développer plus vite ses photos. Certes, il y avait là, je dirais, la matière d'un personnage de film, et en l'espèce, eh bien, c'est bien ce que fit Howard Franklin, le réalisateur, en 1992 de L'œil public, en anglais The Public Eye. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais il fait pour moi partie des chefs-d'œuvre méconnus. Un film avec une reconstitution tout à fait soignée, un film tout à fait élégant, tout à fait excellent. On trouvait Joe Pesci dans le rôle du dénommé photographe Arthur Fehlig, avec à ses côtés Stanley Tucci, et surtout on retrouvait la délicieuse, la sublimissime Barbara Hershey, qui jouait le rôle de ces femmes fatales, on le dit en français, en anglais, de ces femmes fatales, comme on en vit souvent dans les films noirs des années 40, 50, et je n'hésite pas à le dire, cette dame-là était de l'étoffe de Lauren Bacall. Bref, un petit chef-d'œuvre, si ça existe en DVD, ce dont je ne veux pas douter, précipitez-vous, vous allez découvrir un film tout à fait réussi, qui vous replonge tout à fait dans cette ambiance du film noir. Et pour rajouter encore à notre ravissement, eh bien, il y avait évidemment une musique signée de Marc Isham, un compositeur, pardonnez-moi, relativement prolifique, pas toujours dans le bon, mais parfois dans l'excellent, et vous vous en doutez, nous ne privilégions que l'excellent dans 24 notes secondes. Allez, sans plus attendre, un extrait de cette bande originale, ça s'appelle L'œil public, et vous êtes bien dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, j'ai voulu vous laisser profiter de la musique de Marc Hicham jusqu'au bout et vous inviter par ce court extrait à courir, s'il en existe encore, dans votre vidéoclub préféré pour commander le DVD The Public Eye, L'œil public, un film tourné en 1992 par Howard Franklin. Alors évidemment, ce n'est pas un film noir de la grande époque, mais ma foi, c'est un hommage tout à fait réussi et pour ce qui me concerne, j'insiste, un petit chef-d'œuvre quelque peu méconnu. Ce n'est pas le cas du film que nous allons évoquer en suivant dans cette florilège de détectives au cinéma, puisque Garde à vue, c'est le nom du film, tourné en 1981 par Claude Miller, obtint cette année-là, d'après mes petites fiches, 4 Oscars, pas 4 Césars, pardonnez-moi, mais après je vous expliquerai la raison de ma confusion, 4 Césars, et notamment un César tout à fait mérité du meilleur scénario pour le regretter Claude Miller, qui s'était entouré en l'espèce de Jean Herman et de Michel Audiard pour adapter un roman de John Wainwright que j'avoue, je ne connais guère comme roman, en tout cas comme auteur de romans policiers. L'histoire se déroulait pratiquement en une nuit de garde à vue, d'où le titre, dans un décor unique, ce qui aurait pu être tout à fait lassant si les personnages principaux n'avaient été dans le rôle de l'enquêteur Lino Ventura, les acteurs principaux, dans le rôle de l'enquêteur Lino Ventura et dans celui du suspect. Finalement innocenté, là encore je vous dis tout, Michel Serrault, quand je vous dirais que ces deux-là étaient entourés, en tout cas secondés de Romy Schneider, de Guy Marchand, de Pierre Maguelon et de quelques autres, eh bien, vous en conviendrez, nous étions dans une certaine forme de qualité française des années 80, tout à fait solide. Michel Audiard était bien évidemment au dialogue, Bruno Nuitaine était à la photographie, et le film présente la particularité, en tout cas dans les années 80, ce n'était pas si répandu, d'avoir été, comment dire, entièrement dessiné au préalable, on appelle ça des storyboards, c'est-à-dire des dessins de chacun des plans, et le tout pour dire effectivement qu'on avait affaire à quelque chose d'assez cérébral, d'à quelque chose d'assez composé, d'à quelque chose d'assez glaçant, mais c'était tout à fait réussi et c'était tout à fait le propos. J'ai évoqué tout à l'heure les Oscars, puisque en 2000, on fit un remake américain de ce film, mais oui, ça s'appelait Suspicion, on retrouvait dans les rôles principaux de Serrault, Ventura, Schneider, Gene Hackman, Morgan Freeman et Monica Bellucci, et c'était comment dire moins bien. En tout cas, la musique de Garde à vue, elle, était tout aussi magnifique et elle était composée par un compositeur que nous regrettons, bien sûr, et qui lui-même fit de nombreux allers-retours entre la France et les États-Unis, menant dans chacun de ces pays une carrière tout à fait brillante. Georges Delerue, puisque c'est de lui qu'il s'agit, les fidèles de 24 notes secondes savent combien votre serviteur le révère et combien il lui manque quasiment tous les jours. Du coup, on peut, grâce à la magie du CD et du numérique, on peut s'en consoler en écoutant et en réécoutant des extraits de ces bandes originales. En l'espèce, vous allez voir, ça va être assez court, ça va être assez déroutant, mais ça va être très très beau. Un extrait donc de la bande originale signée de Georges Delerue pour le garde à vue de Claude Miller sur Divergence FM. Thank you. Voilà une balade enfantine pour la bande originale de Garde à vue, une musique signée de Georges Delerue. Une balade enfantine puisque l'histoire tournait autour de l'assassinat de petites filles dans ce film qui réunissait dans les rôles principaux Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schneider. Alors, au risque de paraître funèbre, eh bien tout cela nous ont quittés, tout comme Claude Miller, tout comme ce fut aussi le dernier dialogue signé par Michel Audiard. Alors pour conclure cette émission de 24 notes secondes, eh bien nous allons revenir aux années 2000, en tout cas au 21e siècle, une fois n'est pas coutume, c'est un peu rare, je le reconnais, dans 24 notes secondes, et nous allons évoquer en quelques minutes eh bien un revival fort bienvenu d'un personnage absolument immortel pour toutes les raisons, un détective absolument extrêmement connu, les moments manquent pour parler de Sherlock Holmes et de son fidèle Watson, c'est bien d'eux qu'il s'agit. Alors tout à l'heure, j'ai dit à propos d'Hercule Poirot qu'on avait tourné beaucoup de films à partir des romans de Miss Christie, mais que dire alors des adaptations de Conan Doyle et des films, des séries et des romans autres adaptés de ce mythe absolu qu'est Sherlock Holmes et son fidèle Watson. Bref, depuis quasiment les débuts du cinéma, eh bien, on a tourné au cinéma et puis à la télévision des adaptations de Sherlock Holmes et il n'était pas dit que le 21e siècle ne s'y attaquerait pas. Et ce fut fait dans deux films maintenant, puisque comme le premier a eu beaucoup de succès, on lui fit une suite, avec dans les rôles principaux Robert Downey Jr. qui jouait le rôle de Sherlock Holmes et Jude Law qui jouait celui du docteur Watson, de choix tout à fait improbable pour les idolâtres du canon. Le canon, c'est ainsi que les fidèles de Sherlock Holmes appellent les histoires signées uniquement par Arthur Conan Doyle. Je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup apprécié ces deux films outrageusement victoriens, débordant d'effets numériques et où, s'il déploie évidemment sa perspicacité légendaire, Sherlock Holmes aussi ne craint pas de cogner là où ça fait mal et aussi d'embrasser des filles somptueuses, ce qu'il ne se garderait bien de faire dans le canon. Mais ma foi, je dois vous dire que personnellement, j'ai trouvé ça tout à fait réussi, tout à fait jouissif, le premier comme le second opus. Alors, ne nous en privons pas, puisque la musique aussi était tout à fait réussie et tout à fait jouissive. Elle était signée d'Hans Zimmer, qu'on n'a pas toujours connu dans le meilleur rôle, mais qui, en l'espèce, eh bien, avait su parfaitement s'adapter à cette atmosphère joyeuse, loufoque, vaguement surréaliste et qui, certes, trahissait beaucoup Sherlock Holmes à l'ancienne. Ma foi, de temps à autre, il le faut, non pas pour rester au goût du jour, cela ne nous intéresserait pas, mais justement pour préserver tout ce que le mythe peut avoir de précieux. Aussi, on va s'écouter en manière d'apothéose, eh bien, un très large extrait de la bande originale du premier film cité, Sherlock Holmes, une musique de Hans Zimmer dans 24 notes secondes. Allons-y, la musique. Mr. Holmes, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Je l'avais déduit, c'était élémentaire, mon cher Watson. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.